Mon propos cet après-midi vient d'une réflexion que j'ai entendue ces derniers jours. Quelqu'un qui est entré dans l'église et avec qui on a pu parler un moment, disait ceci, c'était sa remarque, hein. Il disait, écoutez, moi aussi je suis croyant, mais quand même, votre Dieu est rancunier. Hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi il dit ça? Il dit tout de même, votre Dieu est rancunier. Hein. Pour une pomme, vous voyez tous les morts qu'il y a depuis des siècles. Et ça m'a interpellé quand même. Hein. Parce que je me suis dit, zut alors, j'ai l'impression qu'il a inversé le problème. Non, vous ne trouvez pas? Il me semble qu'il a inversé le problème. Ce n'est pas pour une pomme qu'il y a tous ces problèmes et qu'il y a eu autant de morts. C'est précisément parce que l'homme n'a pas voulu que Dieu s'occupe de lui qu'il y a tous ces morts. Sauf que dans l'idée des gens, c'est souvent de la faute de celui qui est innocent et le coupable devient victime. Et j'avais envie de revenir sur cette pensée-là au travers de différents textes et notamment un verset qui a été traduit autrement et qui apparaît à l'écran. Un mot qui revient souvent dans la Bible, c'est la longanimité. Alors, je suis comme vous, ça ne fait pas partie de mon langage habituel. Je ne pense pas que vous utilisez longanimité à tour de bras, non? Dites, ah, c'est quand la dernière fois que vous l'avez prononcé ce mot-là? Jamais. Jamais. Ça existe, hein, je vous promets, ça existe. Hein. D'ailleurs, la définition, écoutez bien la définition de la longanimité, parce que ça existe encore dans le dictionnaire. Attitude selon laquelle un être puissant subit avec patience et clémence les insultes ou les attaques d'êtres plus faibles alors qu'il pourrait facilement les punir. C'est ça la longanimité. Attitude selon laquelle un être puissant subit avec patience, avec clémence, les insultes et les attaques d'êtres plus faibles alors qu'il pourrait facilement les punir. On a traduit, on a mis quelques synonymes approchants. À côté de ce mot-là, on parle de la clémence, c'est dit dans la définition, et on parle de la tolérance. Mais j'ai choisi quelques textes qui en rendent un témoignage peut-être plus précis. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul explique pourquoi le monde vit encore? Pourquoi le monde n'a pas été broyé sous le jugement divin? Pourquoi la terre existe encore et pourquoi vous êtes là? L'apôtre Paul l'explique. Il le disait tout du moins à ceux de son temps en disant ceci, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Et en fait, vous avez la traduction à l'écran de ce verset, dans une autre traduction. « Ne vois-tu pas, en parlant de Dieu, qu'il retarde son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ?» En fait, la patience de Dieu surpasse largement nos erreurs et il use de patience. Un texte un peu parallèle dans la deuxième épître de Paul, aux Corinthiens, je vous le lis, au chapitre 6 et au verset 6, Paul dira « Dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. » En fait, il dit par toutes ces choses-là, « Je veux me rendre recommandable aux hommes. » Et il parle de lui aussi, la manière dont il a subi sans résister, alors que comme un être puissant, il aurait pu se défendre, il ne l'a pas fait. Et enfin, il nous est dit dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 16, comme quoi il est utilisé souvent ce mot-là. Hein. Paul dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. En offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. » C'est ça la longanimité. C'est à la fois une révélation de la patience de Dieu et jusqu'où Dieu est capable d'aller et de supporter. Je pense qu'on a tous des limites. Selon le cas, elles arrivent plus ou moins vite, mais si on vous agace, si on vous énerve, tôt ou tard, la coupe déborde. Et puis on s'énerve. Parce qu'on a atteint le bord, on a atteint la limite. Votre patience a des limites, n'est-ce pas? Non? Parce que je peux vous faire craquer, hein? Non? Voilà, on sait très bien qu'à un moment donné, il faut pas aller au-delà, c'est pas possible. Vous allez voir avec moi cet après-midi que la patience de Dieu va tellement plus loin que tout ce que l'homme mériterait comme grâce, et tout ça dans un seul but. C'est que vous puissiez comprendre cet après-midi jusqu'où a été le pardon de Dieu, jusqu'où ce pardon peut s'exercer. De quelle manière Dieu, dans sa grâce, a décidé d'user de temps, de miséricorde. Il vous a laissé du temps, plus qu'il n'en fallait, certainement. Mais si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, comme quoi c'était nécessaire, il vous a laissé du temps. Je pense que c'est une des clés qui nous permet de comprendre d'où viennent tous les problèmes, d'où arrivent toutes les difficultés de la terre. Ce n'est pas pour une pomme que Dieu est rancunier. Dieu n'est pas rancunier et il ne fait pas mourir des centaines de milliers de gens simplement par plaisir et par rancune, non. Mais Dieu use de patience en offrant à l'homme la possibilité d'user avec ses propres armes de miséricorde, de grâce, d'amour, de bonté. Et quand on voit comment les choses tournent, on se rend compte que le cœur de l'homme est plutôt attaché au mal, bien plus sûrement qu'attaché au bien. Et quand une situation pourrait s'arranger, combien de fois l'homme a décidé de l'envenimer, combien de fois l'homme a décidé de tourner la chose dans un mauvais sens. Ça, c'est la part des hommes, c'est pas la part de Dieu. Dire que Dieu est rancunier, c'est pas juste. Dire que Dieu n'a pas d'amour, c'est pas juste. Dire que Dieu n'est intolérant, c'est pas juste. Par contre, l'homme est intolérant, l'homme est impatient, l'homme est très dur dans ses réactions. C'est incroyable comme, et j'insiste, on est capable d'inverser les rôles. Vous vous rendez compte? Je repense à cet homme, peut-être qu'un jour nos routes vont se croiser à nouveau. Mais imaginez que ramener tous nos problèmes au seul fait que Dieu est un inconscient et ne s'occupe pas de la terre, c'est quand même terrible, c'est quand même terrible. J'ai choisi des exemples qui nous montrent à quel point la patience de Dieu s'est exercée. Quand Paul en parle, ben il sait de quoi il parle, évidemment. Il est bien concerné par la chose, il a réalisé dans quel état il se trouve. Et il est dit ceci dans le livre des Actes au chapitre 26, Paul rend témoignage. Il explique ce qu'a été sa vie et on est étonné, comprend mal, comment un homme comme Paul a été capable d'être aussi violent. Comment en est-il arrivé à manifester autant de haine, autant de violence, autant de colère et d'animosité vis-à-vis de personnes qui ne lui avaient rien fait? Rien fait. Il rend ce témoignage et je peux vous en lire quelques mots. Il dit ceci, « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de ma religion. » Voilà quelqu'un qui a été enseigné dans la religion. Visiblement, ça ne l'a pas totalement éclairé. En tous les cas, ça lui a donné une direction. Et il a décidé de suivre cette direction. Et très rapidement, on se rend compte que non seulement il n'est pas éclairé, mais il est même aveuglé. Je parlerai même d'endoctrinement. On pourrait parler de manipulation. Vraiment, on pourrait parler de manipulation. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, des croyants, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. J'ai pas envie de dire amen. C'est terrible quand même. Quelle violence! à cet homme, aller lui dire « Mais tu es violent, mais ce n'est pas ta faute, c'est de la faute de Dieu parce que Dieu est en colère contre les hommes. » Moi, ça ne me satisfait pas. À celui qui va prendre des coups sous les mains de Paul, qui s'appelle à l'époque Saul de Tarse, qui vient de la ville de Tarse, cet homme Saul qui est en train de martyriser quelqu'un, ce quelqu'un pourrait lui dire « Écoute, je t'en veux pas parce que c'est de la faute de Dieu, il est tellement rancunier qu'il nous fait tous passer à tabac. » Personne ne peut dire ça. Et Paul a eu conscience un jour de cela. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Parce qu'il était endoctriné, parce qu'il était manipulé. Et quelque part, on est aussi un petit peu manipulé par, finalement, la société dans laquelle on vit. Hier, j'entendais quelqu'un qui expliquait dans l'histoire de l'Évangile, de toutes les missions évangéliques en France. On est dans un pays laïque. Cet homme d'expliquer que les premiers à avoir revendiqué la séparation de l'Église et de l'État étaient des pasteurs évangéliques. Dans les années 1800 quelque chose. Parce qu'il comprenait bien que ça ne pouvait pas coller. Il y avait des intérêts, il y avait du pouvoir, il y avait... Et l'Évangile, ça n'a rien à voir avec cela. L'Évangile devait se détacher de cela. Et vous avez des personnes comme Henri Dunant qui ont milité pour cela. Alors aujourd'hui, l'État laïque a repris le fer sur cette question en disant pas de religion, pas de signes ostentatoires religieux, la France est laïque, etc. Mais une fois encore, on a inversé la chose. Ce qui était censé apporter la liberté entraîne une forme d'emprisonnement, plus de liberté. Quelqu'un a dit un jour très justement que la laïcité, c'était la liberté pour chacun, liberté de penser. C'est ça la laïcité, on est libre de penser. Sauf que manifestement, vous êtes libre de penser, mais pas partout, et selon les cas, non, vous n'avez pas le droit trop de penser ça. Préférez que vous pensiez comme cela. On est dans une société qui manipule, mais toutes les sociétés sont comme cela. On est dans des sociétés où il y a un pouvoir fort qui, loin d'être magnanime, ne fera pas preuve de longanimité, loin s'en faut. Et ce ne sont pas des êtres puissants qui vont subir les outrages d'être moins puissants qu'eux en ne disant rien, ce sera plutôt le contraire. On imposera par la force ses vérités, on imposera par le pouvoir et par son autorité ses convictions, ses idées, et malheur à qui ne pense pas pareil. On est quand même influencé ainsi. Et voilà un homme, l'apôtre Paul, qui manifestement, à cette époque-là, et très peu éclairé, il pensait l'être, quand il rend ce témoignage en disant « J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai été jusqu'au bout dans ma religion pour être exactement comme il fallait. » Mais ça suffit jamais. Une religion satisfait peut-être au niveau de, je ne sais pas, de la conscience. On se donne une bonne conscience avec cela. Mais ça remplit jamais le cœur. Ce n'est pas une religion qui va remplir votre cœur. C'est la présence de Dieu et c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des préceptes. Regardez ce qui se passe dans certains pays asiatiques où pendant des heures, pour ne pas dire toute la journée, il faut que quelqu'un passe près d'un moulin de prière et fasse en sorte qu'il ne s'arrête jamais. Et on tourne ces espèces de petits tubes qu'on a appelé des moulins de prière, ça fait un petit peu de bruit, il y a des petits papiers attachés avec des requêtes, des demandes, il faut que ça tourne. Mais quand vous arrêtez d'y mettre la main, ça s'arrête. Voilà, il n'y a plus de force, ça s'arrête. Et malheur quand ça s'arrête, alors on retourne, et on y retourne encore. Mais quelle est la conviction derrière tout cela? Pourquoi est-ce qu'on le fait? On finit par être tellement superstitieux. Tellement attaché, là j'insiste encore au rite, à ce qu'on nous a dit. Il faut le faire de cette manière-là, le pratiquer de telle façon, pas autrement. Et Paul était persuadé qu'il avait raison et persécuter ces chrétiens, c'était obéir à Dieu. Jusqu'au jour où il a été mis face à la réalité, en fait il a été rattrapé. Si vous avez essayé de courir plus vite que Dieu, allez-y, mais je pense qu'il court plus vite que vous. Je pense. Un jour, il va vous rattraper. Et plaise à Dieu qu'il vous rattrape rapidement. Et ainsi, cet homme, Paul, a été rattrapé. Il dit, je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs dans un seul but, mettre en prison les chrétiens. vers le milieu du jour, au roi, il est en train de s'adresser à un roi, « Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » En fait, il voulait plaire à Dieu, il faisait exactement l'inverse. Heureusement que Dieu a manifesté de la longanimité. Heureusement que Dieu a manifesté cette attitude de clémence et de patience au-delà de toute mesure. Heureusement. Mais sinon, Paul, il fallait l'envoyer en enfer bien avant. Il aurait fait moins de tort. Il aurait martyrisé moins de personnes. Ça vous est jamais arrivé de dire, en pensant à telle et telle personne, il vaudrait mieux qu'il meure rapidement, comme ça au moins les gens seraient plus tranquilles. Mais Dieu n'est pas comme nous. Et sa longanimité s'exerce bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ne pensez pas que Dieu agit parce qu'il est faible, mais c'est parce que précisément il est fort et puissant. Et il a décidé d'user de miséricorde. Évidemment, tout le monde n'est pas comme cet homme. Et cet homme qui, d'un instant à l'autre, s'est retrouvé à la fois rattrapé, mais arraché à ses mauvaises pulsions, j'ai presque envie de dire récupéré du mauvais chemin sur lequel il était. Cet homme a été sauvé, cet homme a été affranchi, cet homme, Saul, a été libéré, cet homme a été délivré. Et ce jour-là, un homme est mort et un homme est né. Celui qui est mort s'appelait Saul, celui qui est né s'appellera Paul. Quelqu'un est mort ce jour-là pour renaître dans une vie totalement nouvelle. Et il a fallu une révélation pour cela. Si cet après-midi, vous voulez connaître la longanimité de Dieu, jusqu'où peut aller son pardon ? Il veut vous montrer jusqu'où il est capable d'aller. Si vous voulez expérimenter cela, alors il vous suffit de réaliser que Dieu croise bien souvent vos routes, vos chemins, et qu'il vous suffit simplement de lui demander grâce et de lui demander sa bénédiction. Celui qui a permis ce changement, ben c'est Dieu, hein. Celui qui a préparé le changement, c'est Dieu. Celui qui a proposé ce changement, c'est Dieu. Personne ne pouvait le faire. Personne n'aurait imaginé cela. J'imagine quelques-uns de ces chrétiens s'approchant de cet homme Saul en lui disant « Mais arrête, ne veux-tu pas être chrétien toi aussi ?» Personne ne pouvait le convaincre. Mais Dieu l'a arrêté sur la route. Et quand bien même personne ne vous persuaderait, je crois que Dieu a les mots pour vous persuader. Je crois que Dieu a la puissance de le faire. Je crois que Dieu a l'amour qu'il faut pour vous montrer combien il vous aime et qu'il peut tout pardonner en quelques instants. Amen. Un autre a vécu quelque chose de similaire dans un autre contexte. Et lui, ses heures sont comptées. Cet homme est quelqu'un qui est en train d'insulter Jésus. Il l'insulte, on ne sait pas trop pourquoi, visiblement à cause de la souffrance, à cause de la colère, à cause de ce qu'il est en train de subir lui aussi. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié, on ne l'a pas crucifié tout seul, mais on a crucifié deux voyous, deux bandits avec lui. Et sur les trois croix, on a mis Jésus au milieu et il y avait un brigand, on les appelle ainsi, un brigand d'un côté, un brigand de l'autre. Un évangile nous dit ceci, que quand les croix ont été dressées et que Jésus s'est trouvé ainsi dressé entre ciel et terre sur le mont Golgotha, la foule était venue par là. Quelques passants l'injuriaient, secouaient la tête et se moquaient de Jésus. Il disait notamment, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, eh bien que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, s'il l'aime. » Essayez de vous mettre à la place de ceux qui croyaient, de Jésus lui-même, difficile, mais au moins de ceux qui croyaient, qui entendaient ainsi une foule haineuse dire « Et alors, si Dieu t'aime, il va bien te sortir de là !» Alors qu'il est venu à la croix pour mourir sur la croix. Et tous ceux qui se moquaient en disant « Il a délivré les autres, il a guéri ici et là, il n'est même pas capable de s'occuper de lui. Quel Dieu, quel prophète, mais qui est-il » Et on se moque, et on se moque, et on se moque. Quelqu'un a dit un jour, c'est écrit dans la Bible, hein, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. J'ai un ami qui a vécu une situation un peu comme cela. Il était en train de prêcher l'évangile. Et quelqu'un s'est levé et est venu sur le devant. Et il s'est mis face à lui. Un gars costaud, méchant. Et il lui a dit, dis-moi, c'est pas dit que dans ton livre que si je te frappe sur une joue, tu vas me tendre également l'autre. Il a regardé un moment et lui a dit, écoute, moi si j'étais toi, je le ferais pas. Ça a dû être suffisamment convaincant. Et le gars, il est reparti s'asseoir. Imaginez que maintenant, on vous attache les mains. Vous n'avez rien fait. Hein. Puis il y a quelqu'un qui vient devant vous. Paf, il vous met une claque. Mais vous êtes attaché. Hein. Vous ne pouvez même pas vous protéger. Et puis, 10 secondes après, il revient, il se moque de vous. Paf, il vous met une autre claque. Et vous n'allez pas essayer de vous défaire, vous ? Dites la vérité. Alors, au moins pour se protéger. Si vous ne voulez pas lui en mettre aussi, au moins pour vous protéger. Hein. Parce que non, quelqu'un disait cela aussi. Il se trouvait dans une église et à un moment donné, il va aux toilettes et il est en train de se laver les mains. C'est quelqu'un qui avait des lunettes. En train de se laver les mains. Et voilà que quelqu'un rentre, un fou furieux dans une de nos grandes métropoles. Il rentre, il était énervé, très très énervé. L'autre le regarde comme ça et dit « Ouh !» Et puis il s'approche de lui et il lui dit « Dites-moi, monsieur !» Et oui, il n'a pas le temps de dire oui. L'autre, bon, il lui met une tarte comme ça. Et alors lui, il essaie de se contrôler en disant « Mais calmez-vous, monsieur !» À peine a-t-il dit ça, boum, une deuxième claque, les lunettes qui volent. Et quelqu'un lui a dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et bien là, j'ai dit « Une fois, d'accord, deux fois, non. » Et là, il l'a maîtrisé, parce qu'il fallait le maîtriser. À un moment donné, il faut bien calmer comme cela ces gens un peu furieux. Imaginez maintenant, on est dans un autre contexte. Imaginez la croix, Jésus crucifié, les brigands crucifiés, des clous dans les mains, des clous dans les pieds, et on les insulte, et on peut même leur lancer des pierres, ils ne peuvent même plus se protéger. Hein. Quand, avant d'être crucifié, Jésus a été giflé, on lui a donné des coups de poing, on lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. J'imagine que pour les brigands, ça n'a pas été servi à, autrement que comme cela aussi. Non, que quelle douleur, quelle souffrance. Quand vous êtes frappé, mais la rage vous viendrait. Et alors que Jésus est là crucifié entre les deux brigands, la Bible dit que les uns se moquaient, les autres insultaient, etc. Je vous l'ai lu. Hein. Mais il nous est dit que les brigands crucifiés avec lui l'insulter de la même manière. Les deux brigands l'insultent. Les deux l'insultent. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Tu es le Fils de Dieu, sors-nous de là. Dans un texte, il est dit, dans un autre évangile, qu'un des deux brigands a demandé cela. Sauve-toi, sauve-nous et on s'en va tous ensemble. Et puis, à un moment donné, on peut comprendre la colère de ces brigands. Je me suis toujours posé la question, pourquoi certains vivent-ils dans la violence ? Quelquefois, on répercute ce qu'on a vécu. Hein. Et souvent, les gens violents ont été violentés. Donc, ils se défendent, ils deviennent violents. C'est un moyen de communication chez certains. C'est pas formidable. Hein. Mais certains se protègent comme ça. Et vous ne pouvez pas discuter avec ces gens-là. C'est tout de suite de la violence. J'ai connu quelqu'un comme cela qui disait... D'abord, je frappe, après je parle. Il vaut mieux faire l'inverse quand même. Parce qu'en parlant, vous pouvez éviter d'en venir aux mains quand même. Au moins ça. Et non, non. Et le premier langage qui venait, c'était de la violence. C'est difficile quand même. C'est difficile. Imaginez ce que Jésus pouvait penser de ces deux brigands qui l'insultaient. Pourquoi est-ce que tu es aussi violent que ça ? Tu vas mourir. C'est le moment d'être violent, tu peux cracher sur la foule qui est en bas, c'est toi qui meurs de toute façon. Ta vie, elle est finie là. Fais le bilan de ta vie, réfléchis sur ce qu'a été ta vie, à quoi t'as servi de vivre, réfléchis, où est-ce que tu as commis des erreurs, si tu es là. Mais il y a bien une raison, qu'est-ce qui t'a conduit là ? Réfléchis. Visiblement, ils ne sont pas dans la réflexion, pendant un moment. Puis il y a un changement, il y a un virage qui s'opère. Et à un moment donné, il y en a un des deux, il se passe quelque chose en lui, il change d'attitude. C'est fou, hein ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ? J'en reviens à cet autre verset. Il veut montrer au plus grand des pécheurs jusqu'où peut aller son pardon. Et après avoir été insulté, l'un des deux brigands, après avoir insulté Jésus, se tourne vers son collègue de l'autre côté, qui se plaignait toujours, qui suppliait Jésus de les sortir de cette situation-là. Et l'un s'adresse à l'autre en disant, mais pourquoi lui parles-tu ainsi ? On subit tous la même condamnation, mais pour nous c'est normal. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en lui ? Pour nous c'est normal. On subit le châtiment, mais en fait on a fait tellement de choses qu'on mérite ce châtiment. Il en prend conscience. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'à ce moment-là, il reconnaisse ses fautes, parce qu'il est en train de reconnaître son péché, finalement. Il est en train de reconnaître ses fautes. Il se reconnaît coupable et il s'adresse à l'autre en disant « Mais arrête de te plaindre, pour nous c'est justice, mais lui n'a rien fait de mal. » Après l'avoir critiqué, après l'avoir insulté, après s'être moqué de lui, et comme une révélation, comme un voile qui se déchire. Et tout à coup, il réalise que ce Jésus qu'il venait d'insulter, mais il ne méritait pas d'être insulté. Il ne méritait pas d'être là, parce que lui est juste. Il n'a jamais rien fait de mal. Ça, c'est une révélation. Et voyez, ils auraient pu mourir un quart d'heure avant d'un arrêt cardiaque. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui tient la vie des hommes entre ses mains. Eh oui. Et Jésus aurait pu dire, maintenant, ça suffit, stop. Et puis, il serait mort. Mais la longanimité divine, la patience de Dieu, cette clémence incroyable pour montrer à cet homme jusqu'où peut aller son pardon et après qu'il ait copieusement insulté et que le coupable, comme toujours, soit devenu la victime et l'innocent l'accusé. On réinverse à nouveau les rôles parce que Jésus n'a rien dit, parce que Jésus n'a pas cherché la porte de sortie, parce que Jésus ne répond pas à ceux qui l'insultent et parce qu'il s'adresse à Dieu en disant « Père, pardonne-leur leurs fautes, leurs péchés » et parce que par plusieurs paroles, il exhorte les uns les autres alors qu'il ne peut plus rien faire. Un brigand tout à coup réalise qu'il aurait peut-être besoin de pardon lui aussi. Alors il se tourne vers Jésus et il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ce à quoi Jésus aurait pu répondre, écoute, après tout ce que tu m'as dit là, on va attendre 5 minutes quand même. Hein. Après tout ce que tu viens de me dire, je pense que tu seras le dernier à rentrer dans le ciel. Hein. On va d'abord laisser passer les nations, les foules, quelques millions avant toi, que tu comprennes que le ciel, c'est pas cadeau comme ça et que ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Ben non, ça s'est pas passé comme ça. Le premier qui est rentré dans le ciel, c'est lui. Vous vous rendez compte ? Avant vous qui n'êtes pas brigands, j'imagine. Avant vous, il y est déjà rentré, tout simplement parce qu'il a réalisé jusqu'où pouvait aller le pardon de Dieu. Dieu pouvait aller le récupérer là où il était, dans un coin très loin, un coin très sombre, plus profond des ténèbres. Dieu a été le chercher là où il était, parce que la mort de Jésus à la croix n'a qu'un seul but, sauver des hommes, des femmes, de l'enfer et de la mort éternelle. Cet après-midi, vous avez la liberté de connaître le salut, comme le brigand, de passer de la mort à la vie comme le brigand, après avoir insulté, après avoir été très dur, après avoir été un malfaiteur d'une manière ou d'une autre, en tous les cas pas un bienfaiteur. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez mal fait. Eh bien, Dieu pardonne vos erreurs. Dieu pardonne vos fautes et Dieu vous donne une vie nouvelle. C'est quelque chose de fabuleux, n'est-ce pas ? Et puis, un dernier exemple qui m'est venu à l'esprit, on ne peut pas échapper à cet exemple-là. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on parle souvent de lui en ce moment. Vous n'en connaissez pas un dans la Bible à qui on aurait pu tirer les oreilles parce qu'il n'était pas très obéissant. Eh oui, Jonas. Hein. Vous connaissez l'histoire de Jonas ? À part le grand poisson ? Parce qu'il est rentré dedans, mais il y a une raison. Hein. Il a été avalé, il y a une raison. Jonas, c'est quelqu'un qui a tout pour être heureux. Hein. Bah, franchement, il a tout pour être heureux. Hein. Comme le Jonas qu'on connaît maintenant, il a tout pour être heureux, non ? Ouais, tout va bien. Bref, il a tout pour être heureux, pas de problème. C'est tellement facile, tellement plus facile quand on dit oui, et c'est tellement facile de dire non. C'est tellement plus facile quand on dit oui, et c'est tellement plus facile de dire non. Vous saisissez ? C'est tellement plus facile quand on dit oui, mais c'est tellement plus facile de dire oh non. Et Dieu demande à Jonas de faire quelque chose. T'as pas de problème à avoir, c'est Dieu qui te le demande, ça va bien se passer. Et Jonas dit, oh là là, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avais d'autres projets là, pour le temps à venir. Non, moi, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas. Hein. Et il a désobéi au plan de Dieu. Ben, ça lui a valu un voyage en bateau mouvementé. Ça lui a valu une croisière sous-marine. Ça lui a valu un drôle d'expérience. Mais tellement éprouvante qu'il a réalisé sa folie. Hein. Parce qu'on peut être inconscient, on peut être insouciant. Et on peut réaliser quand même. Bon. Peut-être que vous êtes un peu inconscient ou très insouciant, mais vous pouvez réaliser quand même toutes les bêtises que vous faites. Et quelle bêtise monumentale! Finalement, il va se repentir de ses erreurs, et puis il va obéir à Dieu. Et quand la situation se décante, on retrouve Jonas. Il y a 4 chapitres qui parlent de lui dans la Bible. Le livre porte son nom, lisez-le ce soir à la maison. Mais j'en reviens sur le dernier de ces chapitres, où quand Dieu va, par sa longanimité, user de bienveillance et de bonté, jusqu'où peut aller son pardon, sauver les criminels, délivrer les méchants, les rebelles, les voyous comme Saul de Tarse, etc. Il va décider de sauver une ville tout entière, tous les habitants de la ville de Ninive, parce qu'ils s'étaient repentis. Et c'est pas grave s'ils ont péché pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, c'est pas grave. On efface tout en un instant. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui sont capables de tout effacer en un instant. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que lui qui est capable. Vous imaginez un tableau grand comme le mur, là. Et du haut jusqu'en bas, de gauche jusqu'à droite, à la craie, il y a écrit toutes vos blagues, toutes vos erreurs, toutes vos bêtises. Vous allez effacer ça en une fraction de seconde, il va vous falloir peut-être 4 heures pour le faire. Rien que pour monter à l'échafaudage d'un bout à l'autre. Mais Dieu peut tout effacer en un instant. En un instant. Et c'est ce qu'il fait avec les gens de Ninive. En un instant, tout disparaît. Et là, vous retrouvez Jonas, furieux, en colère, vraiment remonté, mais alors impressionnant. Et Dieu dut lui dire, mais Jonas, pourquoi tu te mets dans ces états-là? Qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas que je sois bon? Tu n'apprécies pas que j'use de miséricorde? Et Jonas dit non, j'apprécie pas. Vous vous rendez compte? Non, j'apprécie pas. Dieu aurait pu lui dire, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 chapitres? Dans le chapitre 2, là, quand tu étais avec le grand poisson au fond de la mer, tu as été jusqu'aux racines des montagnes, et que là, tu as supplié Dieu en disant, je le ferai plus, je veux sortir de là, et que le poisson t'a vomi sur une terre. Dis, c'est pas de la bienveillance, ça, c'est pas de la miséricorde, c'est pas de l'amour, c'est pas une manière extrême de manifester le pardon. Et alors pour toi c'est bon, puis pour les autres ça marche pas. C'est souvent comme cela que la nature humaine réagit, parce que la nature est ainsi faite. Ça prendra du temps à Jonas de comprendre et d'accepter et d'approuver les choix de Dieu. Mais à partir du moment où il a accepté les choix de Dieu, ben ça a été plus facile. C'est tellement plus facile quand on dit oui, mais c'est tellement plus facile de dire non quelquefois. Alors que Dieu vous garde de dire non à la main tendue de Dieu cet après-midi. Parce que c'est plus facile de dire non, hein. Mais ce serait plus facile, et ce sera plus facile, parce que vous direz oui. Ce sera plus facile, parce que Dieu s'occupera de votre vie, du début jusqu'à la fin. Il va prendre soin de vous, il va vous rassurer, il va vous bénir. Ne soyez pas comme ce Jonas, un temps de sa vie, très intolérant, très intransigeant. C'est insupportable d'ailleurs de le voir réagir comme cela. Mais finalement, il n'y en avait que pour lui et tant pis pour les autres. Dieu a usé de miséricorde à votre égard. La longanimité, c'est l'attitude selon laquelle un être puissant subit avec patience, mais avec clémence, les insultes ou les attaques d'êtres plus faibles, alors qu'il pourrait facilement les punir. La croix n'a pas été facile, et l'enfer, c'est pas chose facile. Mais le ciel, ça n'a pas été facile non plus. Or, Jésus a payé pour cela. Cet après-midi, vous pouvez être délivré. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous a choisi? Et que Dieu vous interpelle, vous appelle cet après-midi, Est-ce que vous réalisez quel miracle il a fallu pour que vous passiez de l'enfer au ciel? Quel miracle il faut pour que vous passiez de la condamnation à la justification? Que vous passiez finalement de la souillure à un vêtement blanc, pur, nettoyé, propre? Par quel chemin il a fallu passer? C'est le chemin que Jésus a emprunté, celui de la croix. Il vous demande juste de vous arrêter un instant au pied de la croix, de déposer votre vie, votre cœur, en lui demandant pardon. Et si vous faites cela, vous goûterez à la longanimité de Dieu. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui vous aime, clément, qui est capable de vous accorder sa grâce et qui veut vous bénir encore. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier pendant quelques instants, s'incliner, demander à Dieu sa grâce? Seigneur, nous sommes confus de voir que dans l'Écriture, tu t'es occupé de personnes qui ne le méritaient pas. Mais ceci, finalement, nous humilie parce que nous réalisons qu'il en va de même pour nous. Nous ne méritons pas ta grâce. Et pourtant, tu nous as aimés. Et pourtant, tu nous as fait grâce. Nous ne méritons pas ta faveur, mais que te dire sinon merci de l'avoir manifesté à notre égard. Je veux te demander de bénir quelqu'un cet après-midi dans cette salle qui ne te connaît pas, qui est trop loin de toi, qui est loin de ta miséricorde, qui est loin d'avoir fait la paix avec toi. Il y a quelques reflets chez lui de Saul de Tarse. Il y a quelques aspects qui rappelleront un brigand ou qui rappelleraient Jonas. En tous les cas, le cœur de l'homme est ainsi fait, il ne change pas, même s'il vit dans d'autres temps, à d'autres époques, et même dans d'autres mondes, dans d'autres endroits. Finalement, tant que l'homme sera homme sur la terre, il sera tenu par le péché. Je veux croire que tu es celui qui délivre du péché et que cet après-midi, tu peux délivrer quelqu'un de son cœur mauvais et méchant. Je voudrais que tu le fasses maintenant au nom de Jésus. Je voudrais que tu donnes la délivrance, que tu donnes la liberté et que quelqu'un réalise jusqu'où a été ton amour pour lui, jusqu'où a été capable d'aller ton pardon, jusqu'où tu as été capable d'user de patience, supportant les insultes, supportant les coups, supportant les mauvais traitements, juste par amour et juste pour exercer ta faveur. Je prie que quelqu'un soit sauvé cet après-midi et ne s'en aille pas dans la mort, mais s'en aille vers la vie. Seigneur, c'est facile de te dire oui cet après-midi. Je proclame que beaucoup vont accepter cet après-midi parce qu'ils auront réalisé ce que tu fais pour eux et combien tu les aimes. Que ton nom soit loué pour ta grâce et ta bonté. Amen.